Il y a quelques années, ma femme et moi sommes partis avec deux amis dans un petit avion à quatre places pour nous rendre sur une île appelée Catalina, au large de la côte californienne. Ce fut un voyage intéressant, il y avait beaucoup de vent, le vent soufflait sur ce petit avion et la piste d'atterrissage était minuscule. Quand on décollait de cette piste, on ne pouvait pas voir de l'autre côté. On avait vraiment l'impression qu'on allait tomber d'une falaise. J'étais un peu inquiet, mais le pilote, mon ami, a fait quelque chose avant même que nous décollions. Je vais vous en parler maintenant.
Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses.
Bonjour mes amis, je suis ravi que vous m'ayez rejoint. Dans ce message et le suivant, je vais vous parler de la liste de vérification pour la prière. Je vais en fait vous indiquer quatre choses simples que vous devez vérifier avant de prier. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. À titre d'analogie, il y a quelques années, ma femme et moi avons été invités par des amis à nous rendre à Catalina. C'est une île située à environ 40 km au large de la côte californienne. Elle dispose d'une minuscule piste d'atterrissage. Il y a quelques restaurants et peu d'habitants, mais c'est une magnifique petite île. Nous avons dit oui. Nous avions rendez-vous à un aérodrome local. Mon ami, un pilote confirmé, avait loué un petit avion de quatre places. Alors nous sommes montés à bord tous les quatre. Lui et son épouse étaient assis à l'avant, mon épouse et moi à l'arrière, juste derrière eux. Et il passe en revue toute une liste de vérifications. Il a sorti et vérifié chaque point un par un. Il vérifie le carburant, s'assure que tel indicateur fonctionne, il vérifie que tout fonctionne. Je pense qu'il a vérifié que les volets des ailes fonctionnaient. Je ne pilote pas, mais je l'ai regardé passer en revue toute la liste de vérifications très soigneusement. Il voulait s'assurer que tout était en ordre, car si l'un de ces éléments n'avait pas fonctionné, cela aurait pu être désastreux pour nous, au point même de provoquer un crash et de nous empêcher d'atteindre la destination désirée. Tous les pilotes qualifiés passent en revue une liste de vérifications, que vous voyagiez à bord d'un jet ou d'un petit avion à hélice de quatre places comme nous. Ils passent tous en revue une liste de vérifications pour s'assurer que tout est en ordre de marche, s'assurer que tout va bien avant même de quitter le sol. Avant de laisser notre prière s'envoler vers Dieu, il nous faut passer en revue la liste de vérifications. Sinon, nos prières sont freinées et n'atteindront jamais leur destination. Elles ne nous apporteront certainement pas les réponses que nous attendons. Voici quatre choses simples à cocher sur votre liste de contrôle de prière. Premièrement, demandez-vous, y a-t-il un passage de l'Écriture qui corresponde à ma requête ? Y a-t-il un passage de l'Écriture qui corresponde à mon cas ? Est-ce que la chose que je demande m'est promise dans la Bible ? Jésus l'a dit en Jean 15, et je vais commencer à lire à partir du verset 7. Jean 15, 7. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Il parle ici du fruit de la prière qui portera beaucoup de fruits. Nos prières recevront des réponses abondantes, si nous demeurons en lui et si sa parole demeure en nous. Sa parole doit demeurer en nous avant que nous demandions. Il a dit, « Demandez ce que vous voudrez ». Mais évidemment, cela doit être conforme à la parole, cohérent avec la parole de Dieu, promis par la parole de Dieu.
C'est donc par là que nous commençons lorsqu'il s'agit de notre liste de contrôle pour la prière. Pendant que je suis assis ici, ma femme est en route pour l'aéroport international de Los Angeles. Elle était dans un autre état chez une amie pour quelques jours. J'irai chercher ma bien-aimée environ une heure après avoir terminé ici. Quand elle est entrée dans l'aéroport, elle s'est présentée à la porte d'embarquement pour monter dans l'avion. Savez-vous ce qu'on lui a demandé? On lui demande « Puis-je voir votre billet, madame ?» Elle leur montre alors son billet indiquant « Aéroport international de Los Angeles » sur lequel figure son nom et son numéro de siège. Mais si elle s'était présentée à la porte d'embarquement et qu'on lui avait demandé « Madame, puis-je voir votre billet ?» et qu'elle avait répondu « Eh bien, je n'ai pas de billet, mais je crois que je vais à Los Angeles. » On lui aurait dit « Eh bien, pas dans cet avion, madame, pas sans billet, mais je crois vraiment que je vais à Los Angeles. Eh bien, madame, je suis désolé, vous devez avoir un billet pour monter à bord de cet avion. Cet avion ne vous emmènera pas à Los Angeles sans un billet prouvant que vous vous rendez là-bas. » Alors, que ce soit un billet qu'elle devait scanner depuis son appareil mobile ou un billet papier, elle devait être en possession de ce billet. En vérité, vos prières ne décolleront pas sans un passage biblique qui vous promet la destination souhaitée. Je veux dire que lorsque vous vous mettez à prier, vous feriez mieux d'avoir un billet qui dit « C'est par ses blessures que nous sommes guéris » si vous priez pour la guérison. Vous feriez mieux d'avoir un billet qui dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Vous devez simplement, pour ainsi dire, au sens figuré, avoir un billet qui correspond à votre besoin, qui correspond à ce pourquoi vous priez. C'est extrêmement important. Abraham est mis en avant comme un exemple de foi. Vous pouvez lire dans Romains au chapitre 4 que nous marchons sur les traces de la foi d'Abraham. C'est expliqué en détail et vous pouvez lire l'histoire dans la Genèse. Abraham a 100 ans, sa femme Sarah en a 90, elle a été stérile toute sa vie, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Une traduction dit « Abraham a maintenant 100 ans et le ventre de Sarah est mort ». Voici donc Abraham, et encore une fois, une paraphrase dit qu'il avait un pied dans la tombe. Le sein de sa femme était incapable de porter des enfants. Mais Dieu lui avait promis « Tu seras le père d'une multitude de nations ». Ainsi, contre toute espérance naturelle, il a continué à faire confiance à Dieu. Il est dit qu'Abraham a cru. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 4. Il a cru, selon ce qui avait été dit, « Telle sera ta descendance ». Dieu a dit « Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel ». Si vous lisez Romains 4, la promesse est mentionnée ou évoquée au moins 7 fois. La promesse. Abraham n'a pas simplement cru en fonction de ce qu'il voulait voir se réaliser. Il n'a pas cru selon l'opinion populaire. Il n'a pas cru selon ce que le médecin avait dit ou n'avait pas dit. Il n'a pas cru sur base des conseils de son voisin. Il n'a pas cru selon ce que sa condition physique lui disait être possible. Il a cru selon ce qui avait été dit. Mes amis, la vraie foi est fondée sur la parole de Dieu. Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Une prière efficace est fondée sur les Écritures. Je l'ai déjà dit à maintes reprises et je le répète encore une fois, vous devez entretenir une relation intime avec votre Bible. Familiarisez-vous avec les promesses, familiarisez-vous avec les commandements de Dieu, familiarisez-vous avec ses décrets. Apprenez les voies de Dieu. Pour cela, nous devons passer du temps dans les Écritures. Donc, premièrement, ayez un passage des Écritures, une promesse qui correspond à votre besoin. La deuxième chose sur notre liste de contrôle est la suivante. Vérifiez si vous êtes dans la foi. Je vais vous l'expliquer, alors restez avec moi. Je ne veux pas que vous vous mépreniez. Donc, numéro 2 sur la liste de contrôle, vérifiez si vous êtes dans la foi. Je vais vous lire 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 5. Paul écrit ici aux Corinthiens. Voici ce qu'il dit. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins, peut-être, que vous ne soyez disqualifiés. » Bon, réfléchissez un peu. Il a dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. » Il parle ici en général de la foi en Christ pour le salut. Faites-vous partie du corps du Christ? Êtes-vous sauvé? Avez-vous été lavé dans le sang? Êtes-vous né de nouveau? Appartenez-vous vraiment à Christ? Est-il vraiment votre sauveur? Il a dit de s'examiner soi-même. Il y a des choses que nous pouvons examiner à ce sujet. Il est vrai que nous pouvons être assurés que nous sommes en Christ. Dans 1 Jean, il est dit, « Nous savons que nous avons la vie éternelle grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. » Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il existe donc certaines façons de savoir si nous sommes en Christ, si nous lui appartenons. Cela est vrai pour cet aspect de la foi, mais cela vaut en réalité pour toutes les facettes de la foi. Vous pouvez vous examiner pour savoir si vous avez la foi pour obtenir le salut. Vous pouvez également vous examiner pour savoir si vous avez la foi pour recevoir la guérison physique de votre corps. Vous pouvez vous examiner pour savoir si vous avez la foi quand vous priez pour vos enfants, pour votre mariage, pour un besoin matériel ou, mes amis, pour tout ce à quoi vous êtes confrontés en ce moment. Vous pouvez savoir si vous avez la foi. Écoutez, si vous m'accordez votre attention pendant quelques minutes, je vais vous expliquer comment faire. Ce n'est pas si difficile et cela pourrait révolutionner votre vie. Examinez-vous, le mot « examiner » signifie « regarder attentivement, scruter minutieusement, éliminer tout le reste et regarder ce qui est vraiment là. » Votre foi est-elle authentique ou n'est-elle qu'une imitation ? Ma femme Janet, il y a quelques années, une dame de l'église est venue vers elle et lui a donné un collier de perles. Il était vraiment magnifique. Et nous ne nous y attendions pas. Ma femme a été très aimable et l'a remercié. Ce n'était pas de grosses perles ostentatoires, c'était de petites perles, mais c'était un magnifique petit collier de perles. Je me souviens avoir pensé, quel cadeau! Elle a offert ce bijou personnel à ma femme en expliquant que c'était son bijou préféré et qu'elle voulait que ma femme, Janet, l'ait. Janet a donc ce collier. Un jour, je me suis glissé dans son coffret à bijoux et je l'ai pris. Je suis allé dans une bijouterie. Je voulais voir si je pouvais faire des boucles d'oreilles en perles assorties à son collier ou s'ils en avaient que je pouvais acheter. Je me suis donc rendu chez le bijoutier et je lui ai dit « Bonjour, quelqu'un a offert ce collier de perles à ma femme et je voudrais faire ou acheter des boucles d'oreilles en perles assorties. » Le gars m'a répondu, « Eh bien, montrez-moi ça. » Il a sorti une petite loupe, une sorte de petite loupe que les bijoutiers utilisent. Il le regarde et dit, « Monsieur, ce ne sont pas de vraies perles, ce sont des imitations. » Je réponds, « Non. » Il insiste, « Si, ce sont des imitations. » Je lui demande, « Comment le savez-vous ? » Il me répond, « Eh bien, regardez. » Il me donne la loupe et me rend les perles. Il dit, « Regardez, si vous regardez bien, vous pouvez voir une soudure. Regardez de très près. » Et vous pouvez voir une soudure à l'endroit où cette chose a été fabriquée. Ce ne sont pas de vraies perles, pas du tout. J'ai regardé, et effectivement, en regardant de plus près, j'ai vu qu'il avait raison. C'était des imitations très réalistes. Elles ressemblaient à des perles. Nous pensions que c'était de vraies perles. Je pense à cette histoire, la dame n'avait pas dit à ma femme que c'était de vraies perles. Nous l'avions simplement supposé. En vérité, elles n'étaient pas authentiques. Il existe une imitation très proche de la foi, appelée assentiment mental. L'assentiment mental ressemble à la foi. Il en a l'apparence. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout d'une foi véritable. Vous voyez, l'assentiment mental reconnaît que la parole de Dieu est vraie, mais il ne dispose jamais des promesses. Voici pourquoi, parce que la vraie foi vient du cœur. C'est plus que faire semblant et accepter seulement mentalement que la parole de Dieu est vraie. Récemment, je suis sorti avec un ami et je l'ai emmené dans un petit restaurant que j'avais découvert. Nous y sommes allés et avons tous les deux pris le menu spécial du midi. Cela ne nous a coûté qu'une dizaine de dollars chacun, mais la nourriture était excellente. Tous les produits proviennent de fermes biologiques et la viande est issue d'animaux nourris à l'herbe. Les légumes sont achetés auprès de producteurs locaux, les vinaigrettes sont faites maison. C'est vraiment un petit restaurant sympa. Nous avons tous les deux pris le même menu spécial que j'avais jamais goûté auparavant, bien que j'y ai déjà mangé plusieurs fois. J'ai été presque stupéfait par la qualité du repas. Je veux dire, ce n'était pas seulement bon, c'était très bon. Je prenais la nourriture, je la mettais dans la bouche, je la mâchais, je l'avalais, mon corps l'assimilait et cela produisait en moi de la force physique. C'est cela que faisait la nourriture. Je l'assimilais dans mon système et elle était transmise. Elle se transformait en force physique. Mais aujourd'hui, même si je peux me souvenir du goût, de la texture, de l'arôme, de la couleur, de la présentation, je peux m'en souvenir parfaitement. Mais je ne peux plus en tirer de force physique. Mon corps l'a entièrement utilisé. Ce n'est plus qu'un souvenir. Je ne peux plus tirer de force physique de ce souvenir, même si je peux vous le décrire parfaitement. Je dois manger de nouveau pour renouveler mes forces. Il en est de même spirituellement pour certains. Il nous faut manger la nourriture de la foi. L'Écriture, la Bible, c'est la nourriture de la foi. La Bible dit « Désirez le lait pur de la parole ». Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. Cette métaphore s'applique également à ceux qui ont atteint la maturité dans le Seigneur. Ils peuvent assimiler la nourriture solide de la parole de Dieu. Nous devons donc assimiler et digérer la nourriture solide et le lait de la parole de Dieu. Lorsque nous mangeons cette nourriture spirituelle, quand nous assimilons la parole de Dieu, cela produit une force spirituelle appelée foi. Mais voici le problème. Les Écritures qui ont nourri ma foi il y a 6 mois ne produiront pas nécessairement la foi en moi aujourd'hui, simplement parce que je m'en souviens mentalement. Je pourrais peut-être les citer, je pourrais peut-être me souvenir du moment où, assis dans mon bureau ou à la table de ma cuisine, je lisais ces versets et où les larmes ont commencé à couler sur mes joues alors que tout prenait soudainement vie pour moi et que Dieu me parlait à travers sa parole. C'était si réel, cela a fait grandir ma foi. Cela m'a apporté une force spirituelle. Je me souviendrai peut-être des émotions que j'ai ressenties ou pas, mais je peux peut-être simplement me rappeler ces passages bibliques. Cela ne suscite pas nécessairement la foi en moi aujourd'hui. La Bible dit, et je l'ai cité il y a quelques instants, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Remarquez que c'est au présent, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas du fait d'avoir entendu, la foi vient de ce qu'on entend au présent. J'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu jour après jour. Saviez-vous que lorsque les Israélites traversaient le désert pour se rendre à la terre promise, Dieu leur fournissait de la manne, du pain venu du ciel? Ils sortaient de leur tente le matin et il y avait de la manne sur le sol. Ils ramassaient cette manne et ils devaient sortir chaque jour pour obtenir de la manne fraîche. Car la manne ne se conservait pas. La manne est une sorte de pain de la parole de Dieu. C'est une sorte de nourriture spirituelle. Si quelqu'un essayait de conserver la manne du jour et d'en ramasser une grande quantité pour la manger le lendemain, vous savez quoi? Les Écritures disent qu'elles étaient infestées de vers. Elles ne se conservaient pas. La même chose est vraie, en quelque sorte, à titre de métaphore, d'exemple. La parole de Dieu que j'ai recueillie dans mon cœur il y a une semaine, un an, un mois, ne me donnera pas nécessairement de la force aujourd'hui. Je dois sortir et aller chercher de la manne fraîche. Je dois me nourrir de sa parole chaque jour. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, voilà le grec, qui sort de la bouche de Dieu. » C'est quelque chose qui est vivant, qui est frais, qui est actuel. Je ne vis donc pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole, mais nous devons nous en nourrir quotidiennement. Alors avant de prier, trouvez le passage des Écritures qui correspond à votre besoin. Vous devez vous demander, est-ce que j'en ai un? Si oui, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Prenez le temps de vous nourrir de la parole de Dieu. Lisez les Écritures, méditez les Écritures avant de prier. En vérité, il y a très peu de situations d'urgence réelles qui nous poussent à prier immédiatement. De temps en temps, nous avons une urgence. Nous devons prier et nous devons prier sur le champ. D'accord, je m'en occupe. Je suis avec vous. On va le faire. Mais en réalité, il y a très peu de véritables urgences. Le plus souvent, nous avons le temps de nous plonger dans la parole de Dieu. Vous devriez le faire avant de prier. En fait, j'ai pour habitude, avant de prier pour quelque chose, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence qui nécessite une prière immédiate, de prendre le temps de me plonger dans la parole. Je peux même prendre quelques jours pour m'imprégner de la parole de Dieu, m'en nourrir, la boire et la méditer. Je parle des passages que je connais déjà, des choses que je connais déjà dans la Bible. Ensuite, je vais prier. C'est une bonne méthode. Permettez-moi de vous lire Proverbes 15, au verset 28. Il dit « Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche des méchants déverse des méchancetés. » Le cœur du juste médite avant de répondre. Le mot « répondre » signifie « commencer à parler », « réagir ». Le cœur du juste, et rappelez-vous, la foi vient du cœur, c'est avec son cœur que l'homme croit. Notre cœur est le lieu où réside la parole de Dieu, et c'est de là que jaillit la foi. Ainsi, le cœur du juste réfléchit à la manière de répondre. Puis le verset suivant, le verset 29, dit « L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes ». Ces versets sont donc liés. Le cœur des justes réfléchit avant de parler. De quoi est-il question ici? Eh bien, Dieu entend la prière du juste. Avant de commencer à parler à Dieu dans la prière, mon cœur réfléchit. Voici le truc. Ce mot « réfléchit » est le même terme hébreu que celui traduit par « médite ». Il signifie « penser à », il signifie « tourner et retourner dans son esprit ». Il signifie réfléchir, imaginer. En fait, le sens littéral en hébreu est marmonner ou murmurer sans cesse. Ainsi, le cœur du juste étudie la parole de Dieu, médite la parole de Dieu avant même de commencer à répondre ou à parler à Dieu dans la prière. C'est le même terme que l'on trouve dans Josué 1:8. Dieu dit à Josué, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors Josué, si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir, il te faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Réfléchis-y, médite-la, étudie-la, murmure-la à toi-même, à voix basse. » Et cela signifie que tu es en train de lire les Écritures. Je les lis à haute voix, la foi vient de ce qu'on entend, je les lis encore, et j'y réfléchis. Je médite dessus, je prends le pinceau de la prière et je peins un tableau sur la toile de mon imagination avec l'encre de la parole de Dieu. D'ailleurs, on retrouve le même terme dans le psaume 1 où il est question d'une personne qui est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit et il porte du fruit. Eh bien, c'est celui qui médite la parole, comme le dit le psaume 1. Celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas et il porte du fruit. Vous vous souvenez où nous avons commencé tout au début dans Jean 15? Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il a dit, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Certains m'accusent d'être redondant et répétitif, et je plaide coupable. Surtout quand il s'agit de nourrir une relation intime avec le livre de Dieu. Je vous le dis, mes amis, les Écritures sont vivantes. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous passez du temps à méditer sa parole, à la ruminer et à y réfléchir, à la lire, à la relire et à prier à son sujet, cela changera votre vie. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas réservée à quelques privilégiés. Le Saint-Esprit vous révélera la vérité si vous passez du temps dans sa parole. Ne soyez pas comme cet homme qui marchait à la surface du sol en essayant de ramasser des pépites d'or. Vous en trouverez peut-être une ici ou là, mais c'est celui qui fouille la mine et creuse la terre qui trouve le filon le plus riche. Plongez votre esprit dans la parole de Dieu, creusez et cherchez la vérité. Vous ne serez pas déçus.
Cette émission est financée presque exclusivement par des dons. Vous souhaitez vous aussi contribuer à la production d'autres messages? Faites un don en ligne dès maintenant sur notre site bayless-conley.fr/don ou envoyez-nous un email à contact@bayless-conley.fr. Nous serons heureux de vous expliquer comment vous pouvez nous soutenir.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.